Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 38, toujours sur le plus important sujet de toute la parole de Dieu qui concerne la prière. L'importance de la prière, la louange et l'intercession sera notre étude. Aussi, je vous prie, si vous pouvez, notez les versets, ou le plus de versets possible, de ceux que vous entendrez. Pourquoi ? Pour que vous puissiez plus tard, quand vous réécoutez ce message, cette étude, parce que ça n'est bien une, que vous puissiez suivre dans vos Bibles pour en profiter davantage. Alors ça, je crois que c'est très très important. Chers amis, pourquoi louer et rendre grâce ? Eh bien, premièrement, parce que la louange axe notre regard vers le Seigneur Tout-Puissant, vers ce qu'il est, vers ce qu'il fera. La louange érige la foi et nous montre tout à fait clairement à quel point notre Dieu est grand et combien il est absolument impatient de vouloir vous bénir, nous bénir. Car sans la louange, eh bien, notre intercession peut rester un simple plaidoyer pour ce que nous souhaitons pouvoir recevoir, par exemple, au lieu d'être la certitude que nous recevrons, quelle que soit notre demande. Saint Jean chapitre 15, verset 7, ainsi que toujours Saint Jean, encore Saint Jean, verset 5, et verset 14 à 15. Donc, vous l'avez compris, Jean 15, 7, et Jean 5, 14 et 15. Deuxièmement, parce que l'action de grâce est le jaillissement spontané d'un cœur débordant de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous, pour sa bonté, pour son amour et les merveilleux exaucements de nos prières. L'action de grâce, elle remercie celui à qui sont dus tous les remerciements et les louanges. Saint Luc, chapitre 17, versets 12 à 19. Rappelez-vous, il y avait 10 lépreux qui avaient été guéris. Curieusement, seul l'un d'entre eux est revenu, glorifiant Dieu d'une voix forte en le remerciant de tout cœur. Mais c'est quand même honteux et grave que sur 10, il y en a un seul qui est revenu. Et c'est uniquement, et ça c'est important de bien le comprendre, c'est uniquement à ce lépreux-là que Jésus-Christ a dit « Ta foi t'a sauvé ». Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas été sauvés, mais ce n'est pas pareil. Écoutez, 10 lépreux avaient été physiquement guéris, d'accord ? Mais la louange et l'action de grâce n'ont procuré la guérison complète, je dis bien complète, corps, âme et esprit, qu'à celui qui avait loué et remercié le Seigneur de tout son cœur. Saint Luc, chapitre 17, verset 11, jusqu'au verset 19. Troisièmement, parce que la louange et l'action de grâce évitent que notre intercession ne dégénère en une liste d'emplettes de tout ce que nous voulons, désirons, et que Dieu fasse pour nous ces emplettes comme si on allait chez Leclerc ou dans un autre supermarché. presque les deux tiers du Notre Père, selon saint Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, sont consacrés absolument à la louange et à l'action de grâce. Seulement un tiers concerne l'intercession et la confession. Le Notre Père, il commence et se termine par la louange. Quatrièmement, parce que la louange est l'action de grâce sortant nos âmes et nos esprits de l'apathie, de la dépression, du découragement, de la frustration et même de la colère. Elle a donc un degré que rien d'autre ne peut atteindre. Rien est plus merveilleux et aussi comme résultat que la louange. Reportez-vous simplement au psaume chapitre 42 et 43 et notez surtout le psaume 42 versets 3 à 6. La louange procure, croyez-moi, la victoire finale. Satan nous donnera, oh oui, il ne se gêne pas, il nous donnera autant que nous voulons. Et c'est pourquoi il faut toujours continuer de louer Dieu, parce que Satan va intervenir par ses spires. La louange détourne notre regard du problème et l'oriente vers le seul qui puisse y remédier. Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 30. Cinquièmement, parce que l'action de grâce conduit à croire, et que demander ne suffit pas toujours. Notez bien ce que vous allez entendre. Si je demande à Dieu de me guérir et que cela ne se produit pas, je pourrais toujours dire « Oh, j'ai demandé à Dieu de me guérir, mais il ne l'a pas fait. » Par contre, si non seulement je demande, mais en plus, que je le remercie également avec foi de m'avoir guéri. Alors là, j'ai été amené à croire qu'il me guérira et non pas qu'il pourrait éventuellement me guérir. C'est un remerciement par anticipation. L'action de grâce indique que nous croyons que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Saint Marc, chapitre 11, verset 24. Nous devrions apprendre cela presque par cœur. Ou si je le répète, si je demande à Dieu de me guérir et que cela ne se produit pas, je pourrais toujours dire « J'ai demandé à Dieu de me guérir, mais il ne l'a pas fait. » Par contre, si non seulement je demande, mais que je le remercie également avec foi de m'avoir guéri, j'ai été amené à croire qu'il me guérira et non qu'il pourrait me guérir. C'est un remerciement par anticipation. L'action de grâce indique que vous croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Saint Marc 11, verset 24. Sixièmement, parce que il nous est prescrit de rendre grâce. Les commandements à rendre grâce sont les suivants. On pourrait dire à 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, où il est dit « Réjouissez-vous toujours, priez sans relâche, rendez grâce en tout, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Notez bien que cela ne signifie pas que vous deviez rendre grâce pour tout. Nous ne rendrons pas grâce pour le mal, le péché ou les œuvres qui viennent du mal, mais qu'il faut bien rendre grâce en tout, dans le sens biblique, dans le sens de l'Esprit Saint, c'est-à-dire lors des situations les plus diverses où il est possible de louer Dieu et de lui rendre grâce. B. Nous avons Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « N'ayez aucun souci, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu toutes vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole du Christ habite en vous richement. Aussi chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, par lui, pendant, toujours, à lui rendre grâce au Dieu le Père. Par Jésus-Christ, nous rendrons grâce au Dieu le Père. Alléluia. D. Notez Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Remplissez-vous d'Esprit Saint. Rendons grâce toujours. Donc, on a à nouveau, rendons grâce toujours et pour tout au Dieu et Père, et ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques exemples d'actions de grâce extraits des Saintes Écritures sont les suivantes. Nous avons Saint Jean chapitre 11, versets 41 et 42. Là, on voit que Jésus leva les yeux en haut et il dit « Père, « Oh, je te rends grâce de m'avoir exaucé. » On peut ajouter « Merci, Père, car moi je savais que tu m'exauces toujours. » Remarquez que dans ce passage, rien n'indique que Jésus-Christ a prié pour que Lazare soit relevé d'entre les morts, mais pas du tout. Il a simplement remercié Dieu de l'avoir fait. Voyez la différence. Et nous noterons Job, chapitre 1, verset 20 à 22, chapitre 2, verset 9 à 10, toujours Job, chapitre 13, verset 15. En dépit de toutes ces souffrances, notre ami Job persistait à louer Dieu et à lui rendre grâce malgré toutes ces terribles souffrances. Ça, c'est une bonne leçon pour nous, en tout cas pour moi. Il est finalement sorti victorieux de toutes les épreuves qu'il avait subies. Certains chrétiens abandonnent beaucoup trop facilement. Nous ne connaissons pas toutes les réponses, évidemment, mais notre foi en Dieu devrait être assez solide pour ne jamais céder au découragement. Satan, lui, vous pensez bien, il désire que nous allons céder. La louange et l'action de grâce procurent, au contraire, la victoire. Qu'il me tue, avez-vous entendu? Notre ami Job, il va jusqu'à dire qu'il me tue. Qu'ils me détruisent, je suis évidemment sans espoir, mais je veux seulement plaider ma cause devant lui, devant mon Père. Job 13, verset 15. Et là, vous pouvez aussi noter gentiment Romains 1, verset 8 à 9, ainsi que 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, parce que voyez-vous, ces études ne sont pas simplement une sorte de délire sur un podium avec des mots théologiques musique qui sonne bien pour faire plaisir à l'auditoire. Non, 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 non. Ce sont des études très pointues et tout ce qu'il y a de plus sérieux. L'apôtre Paul, mais on peut aussi dire, sans avoir l'impression qu'on exagère, Saint Paul. Saint Paul priait constamment pour tous ces convertis, pour toutes ces personnes qu'il rencontrait et qu'il aurait tellement aimé qu'ils soient sauvés. Là, on ne parle pas qu'il a demandé qu'ils parlent tous en langue, mais qu'ils soient au moins sauvés. C'est le plus important de tout, comme le brigand à la croix. Être sauvé. Être sauvé, nous arriverons à la même place que certains qui ont des dons merveilleux du Saint-Esprit. Mais ceux qui ont des dons merveilleux du Saint-Esprit, il est écrit à nulle part qu'il leur sera réservé un ciel à part, n'est-ce pas, avec du caviar et du champagne. Évidemment, je plaisante. Donc, j'ai dit noter 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1, et en particulier les versets 12, 15, 17 à 22. Oui, chers amis, les véritables louanges et actions de grâce viennent, évidemment, ils viennent de l'Esprit Saint. Saint Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Elles ne viennent ni de l'âme, donc ce qui veut dire de la pensée, ni de nos sentiments. En outre, elles sont indépendantes des circonstances extérieures. Sinon, comment l'apôtre Paul et Silas auraient-ils pu prier et même chanter des hymnes dans leur prison, et ceci à minuit? Actes chapitre 16, verset 25. Actes 16, 25. L'Esprit Saint inspire le véritable culte en nous, puisque nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Que cela ne vous décourage pas, mais regardez Dieu, le Père, dans un état de véritable humilité. Oh, combien nous avons de la peine avec l'humilité. Nous sommes tellement orgueilleux et fiers. Donc, je répète, loué, hein, soit le Seigneur. Faisons-le dans l'humilité. Et dites comme dans les psaumes, encore une fois je le répète, loué soit le Seigneur, alléluia. Donc, mon âme loue le Seigneur. Et que tout ce qui a un souffle et que tout souffle de vie loue le Seigneur. La louange est vraiment importante. Nombre de personnes ne comprennent pas ce que sont exactement la louange et l'adoration. Ceci est particulièrement vrai avant que quelqu'un ait été rempli de l'Esprit Saint. Les psaumes de louange prennent une nouvelle signification lorsque l'on a été baptisé dans l'Esprit Saint. Ils prennent une nouvelle dimension dans l'esprit de louange. La louange et l'adoration ont maintenant été réinstaurées dans l'Église, alors que nous nous préparons au réveil spirituel et à la seconde venue de notre Seigneur. Elle constitue une partie de la préparation du chemin du Seigneur. Isaïe chapitre 40, versets 3 à 5. Saint Jean chapitre 4, verset 23, nous enseigne que nous devons adorer Dieu en esprit et vérité. Les deux sont donc nécessaires, et il faut aussi qu'elles soient équilibrées. Oui, car beaucoup de gens connaissent la vérité, mais ils n'adorent pas en esprit. Et d'autres, eux, ils adorent le Seigneur, mais pas en complète vérité. Il faut donc adorer Dieu en esprit et en vérité. Que sont la louange et l'adoration ? Une bonne question. Que signifient ces mots ? Quelles sont leurs justifications bibliques ? Ça, c'est intéressant à voir ensemble. Il y a quatre mots principaux qui sont utilisés en relation avec la louange et l'adoration. Nous avons, premièrement, la louange. C'est glorifier ou bénir Dieu pour ce qui a été accompli, par exemple, la création, l'incarnation, la rédemption, etc. Deuxièmement, nous avons le culte. C'est la dévotion à Dieu pour ce qu'il est, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà ce qu'il est. Troisièmement, l'adoration. C'est l'affection envers Dieu pour notre collaboration avec lui, c'est-à-dire Père-Fils et Père-Fille. Et quatrièmement, l'action de grâce. Ça, c'est la gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prière exaucée, les bénédictions que nous avons reçues, etc. Voyons quelques exemples bibliques. Et la liste n'est pas exhaustive. Aussi, je vous citerai que trois versets qui sont les plus importants. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais nous ne pouvons pas faire cette étude pendant 4 heures, puisque je ne peux pas aller au-delà d'environ 80 minutes. Donc, notez le psaume 66, verset 4. Là, il est dit que toute la terre se prosterne et qu'on joue. Nous avons le psaume 68, verset 5. Là, il est dit « Chantez à Dieu et jouez pour son saint nom. » Et vous pouvez noter le psaume 100, verset 2. Et là, il est dit « Entrez devant lui avec des cris de joie. » Le chant, c'est en effet l'expression de la joie, de la reconnaissance, du culte et de la louange. Il s'accompagne souvent même d'applaudissements. Là, il y en a qui vont grincer des dents, mais on va expliquer la chose bibliquement. Notez le psaume, chapitre 47, verset 1. Là, il est dit que tous les peuples frappaient des mains. Applaudir est également un signe d'approbation, de remerciement, d'adoration et de joie, évidemment. Que signifie le fait de lever les mains ? Nous ne devrions surtout pas être choqués. Premièrement, cela veut dire la soumission. Là, vous pouvez noter Romains, chapitre 6, verset 13, ainsi que Jacques, chapitre 4, verset 7. Deuxièmement, la réception. Notez Saint Marc, chapitre 11, verset 24, ainsi que Luc, chapitre 11, verset 9 à 10. Troisièmement, le culte et la bénédiction. Notons psaume 63, verset 4, et même le psaume 134, versets 1 et 2. Quatrièmement, c'est un vœu et un serment, selon Deutéronome chapitre 32, verset 40. Et cinquièmement, c'est un appel à l'aide, selon le psaume 28, verset 2. Chanter avec l'esprit, ça existe. Nous avons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 13 à 15. Dire un hymne avec l'esprit, c'est le chant inspiré par le Saint-Esprit, que la pensée naturelle ne comprend pas, mais qui bâtit et qui glorifie Dieu, selon Actes, chapitre 2, verset 11. Mais n'allons pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous ceux qui chantent, et même dans des chorales, même d'une façon merveilleuse, classique, et ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux qui va arriver jusqu'au ciel pour honorer Dieu le Père. Donc, faisons attention de ne pas faire ici une ségrégation raciale. Nous avons également dansé. Encore une chose épineuse. Là, vous pouvez noter les psaumes. Le psaume 30, verset 11. Psaume 149, verset 3. Et le psaume 150, verset 4. Ça, c'est un signe de joie, danser. C'est un signe d'action de grâce et d'adoration. Mais voilà, il faut que j'explique quelque chose, parce que là aussi, il y en a qui essayeront de se quereller. Mais il faut un minimum de sagesse et de bon sens. Et cela va nous montrer que ce ne sera pas forcément indiqué de danser, de se trémousser durant le culte du dimanche matin. Excusez-moi de l'expliquer ainsi. Nous avons les instruments de musique. Dans le psaume 150, versets 3 à 5, il y a divers instruments qui sont utilisés à différents moments. La trompette, c'est peut-être pas trop indiqué pendant le culte du dimanche matin, mais elle est utilisée pour rallier le peuple, pour convoquer les chefs dans le sanctuaire, et aussi en association avec le combat, selon 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8. Et nous avons également d'autres instruments, tels que le luth et la harpe, qui étaient des instruments du roi David. Nous avons le tambourin et la danse. Nous avons les instruments à cordes. Oh oui, on les utilisait en période de tristesse et même de deuil, selon saint Matthieu chapitre 5 verset 4. Lorsque notre paix est perturbée, il est très facile de se laisser envahir plutôt que de surmonter les problèmes. Donc, louons Dieu à l'heure de l'adversité, ce qui n'est pas facile. Et lorsque tout semble aller de travers, louons Dieu. Et croyez-moi, ça va faire grincer des dents les suppôts de Satan. Ainsi comme disait un père chrétien à son fils qui se plaignait, c'était évidemment un père américain, mais ça aurait pu être un père finlandais. Ne crie pas tellement, Sonny, mais chante Alléluia. Cette idée a été exprimée ultérieurement dans un magazine, et oui, de la façon suivante. Le secret du succès de la chrétienté. C'est une religion qui peut dire Alléluia malgré qu'il y a des larmes. C'est joliment bien dit. Oui, chers amis, même si l'on est triste, c'est difficile, d'accord, j'en sais quelque chose. Il peut y avoir une lueur de victoire, de joie et de louange. La puissance et la victoire sont au rendez-vous lorsque nous sommes capables de louer dans l'adversité. Et les cymbales, la louange bruyante, a aussi sa place, tout comme l'adoration muette a la sienne. Arrêtez, connaissez que c'est moi. Frappez des mains, acclamez Dieu avec des cris de joie. Psaume 46, verset 11, ainsi que 47, verset 1. Une autre question très intéressante, pourquoi louer le Seigneur? Mais premièrement, parce que Dieu, il nous prescrit de le louer. Et ceci dans le psaume 117, versets 1 et 2, et même dans Romains chapitre 15, verset 11. Ne vous laissez pas guider par vos sentiments, c'est à la parole de Dieu qu'il nous faut obéir. Deuxièmement, en raison de ce qu'il est, et pas nécessairement pour ce que nous pouvons obtenir de lui. Il est le roi des rois. Psaume 47, versets 6 et 7. Troisièmement, parce qu'il est bon et agréable de le louer. Psaume 147, verset 1. Quatrièmement, parce que cela glorifie Dieu. Oh oui! Notez Psaume 50, verset 23. Oui, tout le peuple de Dieu devrait avoir envie de le glorifier. Cinquièmement, en raison de toutes les bénédictions dont il nous gratifie. Le salut, la guérison, c'est quand même pas peu de choses. Le pardon, l'amour, la miséricorde, la vie, etc. C'est grandiose. Psaume 103, versets 1 à 5. Sixièmement, en raison de sa bonté. Psaume 107, versets 8 et 9. Et Psaume 118, verset 1. Et septièmement, pour la puissance de ses actes. Psaume 150, et je crois le verset 2, si je ne me trompe pas. Donc, le véritable culte menant à l'esprit contient une beauté et également un ordre. Cela n'est pas âpre ni discordant, pas du tout, ni même sujet à des objections ou peut-être confus. Nous devons adorer Dieu dans l'unité comme nous le faisons par corporation. Et ainsi, nous devons être dirigés par l'Esprit Saint et lui être réceptifs. Il y aura donc un ordre et un afflux continuel d'Esprit Saint. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, verset 33 et verset 40. Nous offrons la louange et l'adoration à Dieu, mais il est très important que ces offrandes soient faites sans arrière-pensée, c'est-à-dire de toujours vouloir recevoir quelque chose en retour. Cependant, puisque nous donnons à Dieu, il nous donne en retour une bonne mesure tassée, secouée et même débordante, selon Saint Luc chapitre 6, verset 38. Si nos motifs sont bons, si nous désirons adorer et louer Dieu pour ce qu'il est, et non pas pour ce que nous voudrions recevoir en retour. Alors Dieu accomplira beaucoup de choses. Premièrement, le peuple sera sauvé. Oui, le peuple peut être guidé vers Jésus-Christ en qualité de Seigneur et de Sauveur dans le contexte d'un service de culte et d'adoration. Deuxièmement, le peuple sera rempli de l'Esprit-Saint. En effet, les chrétiens, ouvrant leur cœur et leur vie au Seigneur, et ceci dans la louange et dans le culte, ils seront remplis de l'Esprit-Saint. Troisièmement, le peuple trouvera la délivrance. Et comment ? Louer Dieu délivrera le peuple de l'oppression satanique, de la dépression et de la possession démoniaque, car le diable, croyez-moi, ne peut résister aux louanges que nous adressons à Dieu le Père. Quatrièmement, le peuple sera guéri. Oui. La guérison spirituelle, mentale et physique, elle peut venir de Dieu lorsque son peuple le loue de toute son âme, de tout son cœur et de tout son esprit. Et cinquièmement, d'autres besoins seront même comblés, car tous nos besoins sont comblés lorsque nous venons à lui, selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, ainsi que Philippiens, chapitre 4, verset 19. Chers amis, la Bible, elle a beaucoup à dire à propos de l'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est l'équivalent chrétien des holocaustes de l'Ancien Testament, selon 2 Chroniques, chapitre 29, verset 31. Il est donc intéressant de noter que dans le Notre Père, l'action de grâce n'est pas mentionnée, alors que tous les autres types de prières, louanges, adorations, confessions, intercessions et supplications, elles le sont. Pourtant, la vie de notre Seigneur était rempli d'actions de grâce pour son Père. Et parmi les 13 références au remerciement dans les évangiles, eh bien c'est Jésus-Christ qui rend grâce dans 10 de ces références. Il rend grâce. Il rend grâce à son Père, selon saint Matthieu 11, 25 et saint Luc 10, 21. Il rend grâce dans les 3 premiers évangiles. En effet, il rend grâce pour le pain et pour la coupe durant le dernier repas, saint Luc 22, verset 17. Il rend grâce avant de nourrir les 4000, selon saint Marc, chapitre 8, verset 6, ainsi que les 5000, saint Jean, chapitre 6, verset 11, et même avant le repas, selon saint Jean, chapitre 6, verset 23. Donc, rappelons-nous qu'avant que Lazare a été relevé de la mort, ressuscité, il n'implore pas un miracle de Dieu, pas plus qu'il n'intercède, mais il a simplement dit: Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Saint Jean, chapitre 11, versets 41 et 42. Ensuite, il a donné un commandement. Il a dit, Lazare ici, dehors. Et celui-ci est sorti. Chers amis, pourquoi, oui, pourquoi devons-nous rendre grâce? Pourquoi est-ce si important? Eh bien, voyez-vous, premièrement, c'est pour ceux que nous avons conduits à Christ, car l'apôtre Paul, il a toujours rendu grâce, et ceci à 12 reprises, pour tous ceux qu'il a eu la joie de conduire à Christ. Notez par exemple Éphésiens, chapitre 1, verset 16. Là, il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, ô chers amis. » Quel suivi, n'est-ce pas merveilleux? Deuxièmement, rendons grâce pour notre propre salut. C'est pas défendu. Nous devons constamment louer Dieu pour notre propre salut, pour ce dont il nous a délivrés et pour ce quoi nous sommes sauvés. C'est la vie éternelle. Qui me délivrera, est-il dit, de ce corps de mort? Grâce soit donc à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, versets 24 et 25. Mais grâce soit à Dieu aussi après avoir été esclave du péché, vous avez obéi et maintenant vous êtes libéré du péché, vous vous êtes asservi à la justice. Romains 6, versets 17 et 18. Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. Troisièmement, rendons grâce pour la nourriture et les besoins quotidiens. Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises du reste, on trouve des exemples d'actions de grâce précédant un repas. Toute bonne nourriture doit être reçue en rendant grâce. Selon 1 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4 et Actes, chapitre 27, versets 35 et 36. Quatrièmement, pour d'autres chrétiens, ça vaut la peine de rendre grâce. Nous devrions sans cesse rendre grâce à Dieu pour d'autres chrétiens qui nous aident et qui nous encouragent et qui sont généreux envers nous. 2 Corinthiens 9, versets 11 à 15, et qui font même preuve d'abnégation. Romains 16, verset 4. Cinquièmement, pour les prières exaucées, oui, nous faisons beaucoup de prières, mais nous, on peut dire, est-ce que nous rendons toujours grâce, je vous le demande. Rendons-nous grâce pour les bénédictions dont nous avons fait l'objet en réponse à nos multiples prières, selon 2 Corinthiens chapitre 1, verset 11. Nous sommes très nombreux à demander toujours plus, mais nous sommes peu à faire le plus petit remerciement. Demandons-nous plutôt si, en rendant grâce plus largement, Dieu ne nous exaucerait pas encore plus. Va savoir. Mais moi, je l'ai expérimenté et je ne dirai pas « va savoir », mais je sais. Sixièmement, pour un bon gouvernement. 1 Timothée, verset 2, verset 1 à 2. Donc 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 et 2. Oui, non seulement nous devons prier et intercéder pour nos gouvernements, mais aussi de rendre grâce pour eux. Il est dit, j'exhorte donc avant tout à faire des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les présidents et tous ceux qui exercent l'autorité. Septièmement, rendons grâce pour vaincre l'ennemi. Notre Dieu règne et il nous accorde la victoire. Il nous a accordé déjà la victoire sur l'ennemi. De ce fait, louons-le donc pour tout cela. Apocalypse 11, versets 17 à 18, ainsi que Apocalypse chapitre 12, verset 11. Huitièmement, rendons grâce pour la sécurité et la protection de Dieu. Voyez par exemple Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 15. Les chrétiens louaient Dieu pour qu'il les protège et pour que Saint Paul puisse être en sécurité. Neuvièmement, rendons grâce pour le cadeau inouï de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et n'oublions jamais, avec un profond sentiment de gratitude, de rendre grâce à Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ pour notre salut. Ça, c'est la démonstration de l'amour de Dieu, puisque alors que nous étions toujours des pécheurs, Christ est mort pour nous, selon Romains chapitre 5, verset 8, ainsi que 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. Et dixièmement, rendons grâce toujours et à tout propos. Oui, rendons grâce toujours et pour tout à notre Dieu et Père, et ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Car l'action de grâce, elle fait partie de notre culte, selon Éphésiens 5, verset 18 à 20. Rendez donc grâce en tout, car telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous devons donc rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, et ceci, quelle que soit la difficulté, même si c'est un sacrifice de louange, de lèvres qui professent son saint nom. Hébreux 13, verset 15. La louange et l'action de grâce, elles sont des actes positifs, ce sont des bâtisseurs fervents de l'acte d'obéissance en temps de stress, de désespoir et de dépression, lorsque l'ennemi cherche à nous faire tomber. C'est son travail. Qu'il n'en soit rien, mais levons les mains et remercions Dieu. Et par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître Dieu, à Dieu surtout, toutes vos demandes. Je le répète, pour pas qu'il y ait une petite faute de mots. Il est dit, et par la prière, et par la supplication, faite avec action de grâce, connaître tout, toutes vos demandes à Dieu, votre Père céleste. Philippiens 4, verset 6. Attention, cependant, ne faisons pas des faux remerciements hypocrites et tordus. Ça, c'est rien d'autre que de la fierté déguisée. Là, vous pouvez aussi noter Saint Luc chapitre 18, versets 11 à 12. Nous pouvons rendre grâce à Dieu même pour ceux qui ont été baptisés de l'Esprit Saint en langue. Mais je répète, n'allez pas prêcher aux autres qu'il faut être capable de parler en langue pour avoir un certificat pour entrer au ciel. J'ai entendu cela, mais cela est anti-biblique et cela fait du chagrin à des millions de chrétiens. Donc, n'entrons pas dans ce jeu-là. Alors je dirais, il peut être diversement utile de parler en langue, par exemple, pour exprimer à Dieu la gratitude, le remerciement et la louange. En nous accordant ce don, nous pouvons alors proclamer les œuvres merveilleuses de Dieu. Acte 2, verset 11. Nous pouvons être édifiés. 1 Corinthiens 14, verset 4. Nous pouvons prier dans nos esprits. 1 Corinthiens 14, verset 13. Nous pouvons rendre grâce. 1 Corinthiens 14, verset 16. Comme signe surnaturel également, selon 1 Corinthiens 14, verset 22. Priez alors que autrement, nous ne saurions pas toujours comment prier, selon Romains 8, verset 26 et 27. Donc, chers amis, nous avons donc vu pourquoi l'importance de rendre grâce. Et nous pourrons encore ajouter quatre exemples. Premièrement, parce que cela exprime la gratitude de nos cœurs. Saint Luc 17, verset 12 jusqu'au verset 19. Deuxièmement, parce que c'est la reconnaissance de Dieu en qualité de fournisseur de nos besoins. Philippiens 4, verset 19. Troisièmement, parce que Dieu valorise la louange et l'action de grâce. Apocalypse 4, verset 8 et 11, ainsi que versets 11 et 12. J'aurais dû dire Apocalypse 4 et carrément depuis le verset 8 jusqu'au verset 12. Et quatrièmement, parce que Dieu le désire, il le veut. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Nous arrivons, avant de terminer cette étude, à l'intercession. Eh bien, vous savez, l'intercession, c'est beaucoup plus important que certains le pensent. Qu'est-ce que, au juste, l'intercession? Au sens littéral, intercession signifie se tenir au milieu. C'est de plaider en faveur d'une tierce personne. Intercéder, c'est donc se tenir sur la brèche, selon Ézéchiel 22, verset 30. Car l'intercesseur, il peut se tenir sur deux sortes de brèches. Primo, la brèche entre l'homme et Satan. Exemple, Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Secondo, la brèche entre l'homme et Dieu. Exemple, le psaume 106, verset 23. Donc, intercéder signifie intervenir entre deux parties. Saint Luc 11, verset 5 à 8 l'explique très bien. L'intercession, c'est le lien entre deux amis. L'un ayant des besoins et l'autre pouvant combler ses besoins. Intercéder, c'est plaider pour les autres. Nous pouvons supplier, nous pouvons faire une requête auprès de Dieu pour tous nos besoins, mais nous ne pouvons que intercéder en faveur des autres. Dans son fameux livre qui est malheureusement out of print, The Ministry of Intercession, le ministère de l'intercession, Andrew Murray nous dit « L'intercession est le lien entre l'importance de l'homme et l'omnipotence de Dieu. » Je répète, l'intercession est le lien entre l'importance de l'homme et l'omnipotence de Dieu. Quelques aspects importants de l'intercession vont aider la plus grande partie d'entre nous à mieux comprendre tout cela. J'essaie de vous donner 6 exemples. Premièrement, il est absolument essentiel que nous intercédions. Car la Bible nous dit, vous n'avez pas. Pourquoi ? Mais parce que vous ne demandez pas correctement. Selon Jacques chapitre 4 verset 2, je prends évidemment certains versets, puisque je suis de langue allemande, dans des versions allemandes, telles que Albrecht et d'autres, ou même dans des Bibles anglaises, telles que The Amplified Bible. Donc, demandez et on vous donnera, d'accord ? Saint Luc, chapitre 11, verset 9. Car Jésus-Christ a dit, et lorsque vous priez, c'est-à-dire, il assumait vraiment que nous devons prier, selon Saint Matthieu, chapitre 6, verset 5, ainsi que dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, l'apôtre Paul, il nous dit, j'exhorte donc avant tout à faire des supplications et prières, intercessions et actions de grâce pour tous les hommes. Deuxièmement, l'intercession est le ministère qui est le plus négligé. Oui, malgré l'importance de l'intercession, celle-ci est fréquemment négligée, car ce n'est pas facile d'intercéder. Il faut de la discipline, et ça manque à beaucoup de chrétiens. Notez Ésaïe ou Isaïe, selon les versions, 59, verset 16, chapitre 43, verset 5, chapitre 64, verset 7, et Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Dieu cherchait un intercesseur et, curieusement, il n'en a pas trouvé. L'explication réside peut-être dans le fait que celle-ci est généralement faite en secret. Alléluia. Saint Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. Et que personne ne nous en sait gré. Il est donc toujours plus facile, et comment, d'être sous les feux de la rampe dans une cathédrale, être applaudi par l'auditoire, que de se tenir caché, caché avec notre Dieu le Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ, ainsi que le Saint-Esprit, dans la prière d'intercession. La prédication de la parole de Dieu est un ministère public. L'intercession, elle, ne l'est pas. Mais un déséquilibre, attention, peut se produire si l'on néglige soit l'intercession, soit l'étude de la Bible. Les disciples de Jésus-Christ étaient voués à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. Troisièmement, nous devons persévérer. Il n'est pas du tout facile de persister dans l'intercession. Lorsque la réponse tarde, là, Jésus a dit, demandez et continuez surtout à demander. Faites comme le prophète Daniel. Il a enseigné à cet effet le Seigneur la fameuse parabole selon laquelle nous devons toujours prier sans nous relâcher. Saint Luc chapitre 18 verset 1 à 8. L'intercession nous montre que nous dépendons totalement de Dieu, et plus encore, lorsque Dieu retarde la réponse et que nous constatons notre complète incapacité à agir, à part persévérer par la prière, eh bien, nous devons nous accrocher plus que jamais à Dieu. Donc, la parabole de l'ami importun, ne l'oublions jamais, selon Luc chapitre 11, verset 5, et je crois jusqu'au verset 13, elle exprime à quel point nous devons nous accrocher à Dieu malgré les obstacles. Car voyez-vous, rappelez-vous, bien que son ami soit inopportun, eh bien, l'homme ne pouvait pas se contenter de lui répondre simplement « Non, non, va te faire voir. » Il était minuit et l'ami ne voulait pas être dérangé. Oh, pas du tout. La porte était close et la famille était déjà couchée. Mais il a tout de même obtenu trois pains. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il avait insisté. Combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demanderont ? Saint Matthieu 6, verset 11. Et même, il est dit, Dieu ne vengerait-il pas ses élus qui clament vers lui jour et nuit alors qu'il patiente à leur sujet, je vous dis qu'il les vengera plus vite que vous pensez. Saint Luc 18, verset 7 à 8. Quatrièmement, l'intercession freine notre autosuffisance. En effet, l'intercession est une forme de don, un don du temps, un don d'amour, un don de préoccupation en prière pour les autres. Et cela permet de stopper l'introversion et notre autosuffisance. Imaginez que chaque pasteur et chaque chrétien se mettait véritablement à intercéder pour l'ensemble des pasteurs, des chrétiens et des églises de sa ville. Imaginez ce qui en résulterait. L'amour de Dieu produirait une unité dans l'Esprit Saint qu'aucun humain ne peut générer. Si vous avez des difficultés à vous unir à d'autres chrétiens, eh bien, commencez simplement par intercéder en leur faveur, et puis étant en prière, laissez l'amour de Dieu s'épancher pour eux. Oui, ça c'est merveilleux. Cinquièmement, intercéder sur de nouveaux sujets. Et oui, comment réagissons-nous aux nouveaux sujets tels que les tragédies, la violence? Oh là là, vous avez vu certainement la violence de tous ceux des casseurs qui brûlent les voitures, qui cassent les vitrines et qui volent tout ce qui s'y trouve, ruinant ainsi des gens qui ont travaillé une vie entière et qui tout d'un coup, en quelques 10 minutes, perdent tout ce qu'ils ont travaillé pendant des années. C'est pas drôle du tout. Alors je répète, comment réagissons-nous à toutes ces tragédies de violence, d'immoralité? Immoralité avec des enfants, immoralité en battant et même allant jusqu'à tuer notre conjoint, notre épouse. Ce sont des scandales. Et croyez-vous que ce n'est pas un scandale de donner un coup de couteau à un passant ou une passante, même sans en avoir des raisons? Levons-nous les bras au ciel, chers amis, comme c'est terrible, et disons-nous simplement, je ne sais pas où va le monde, en effet, et cela empire de jour en jour, je l'entends même dans les bus et dans le tram. Ou bien, prions-nous? De telles nouvelles devraient, chers amis, servir de base à nos intercessions. Nous pouvons changer le monde et bâtir l'histoire grâce à la ferveur de nos prières, selon saint Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18. Bien sûr que nous ne pouvons pas changer ce que Dieu va faire pour punir ce monde, puisque nous sommes à l'aurore de la dispensation du jugement. Et ça va pas être drôle du tout, ça va être terrible, car c'est la préparation de l'Antéchrist. Elle se prépare de jour en jour. Tous les gadgets qui s'inventent toutes les 2-3 semaines même, c'est la préparation de l'Antéchrist. Tout, maintenant, se met en place, et parfois d'une vitesse qui nous dépasse. Et là, vous pouvez aussi noter 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, Nombre, ça se trouve dans l'Ancien Testament, Nombre 14, verset 1 à 24, Jérémie, chapitre 26, verset 1, et même Jonas, chapitre 3, verset 1 à 10. Et sixièmement, toute véritable intercession commence dans le cœur de Dieu. Apprenons à être réceptif à Dieu et à l'attendre dans la prière. Il nous montrera ce pourquoi nous devons intercéder. Il nous donnera, croyez-moi, un fardeau ou un sujet de prière pour intercéder au nom des autres. Nous ne pouvons pas prier spécifiquement pour chaque chose. Il faut donc que nous cherchions ce que Dieu le Père veut inscrire dans nos cœurs pour la prière. Et prier cette situation pour qu'elle soit accomplie, pour qu'il y ait une réponse. Donc, laissons-le inspirer nos prières. Laissons-le ôter tout le fardeau lorsqu'il sait qu'il est temps de le faire. Nous avons donc les intercesseurs de la Bible qui nous donnent des exemples, qui nous montrent le chemin de l'intercession. Dans l'Ancien Testament, on trouve de nombreux exemples d'hommes de Dieu ayant intercédé pour d'autres, et oui, pour des individus et même pour des nations. Rappelez-vous Moïse qui a intercédé pour Israël, Exode 32, versets 30 à 32. Nombre 14, versets 11 à 19, ainsi que Deutéronome, chapitre 9, versets 25 à 29, et nous pouvons encore noter Psaume 106, verset 23. Moïse a également intercédé pour Myriam, dans Nombre 12, versets 9 à 13. Samuel a intercédé pour Israël, 1 Samuel 7, versets 3 à 5. Ézéchias a intercédé pour ses prêtres, 1 Chronique 21, versets 14 et jusqu'au verset 18. Et notre ami Job a même intercédé, pas seulement pour ses amis, mais même pour ses ennemis, qui lui voulaient pas tellement de bien. Job 42, verset 10. Esther, Esdras, Néhémie, Salomon et Abraham ont également fait partie de ces hommes et femmes de prière et d'intercession. Il a été dit à Esther, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, chapitre 4, versets 13 et 14. Combien, chers amis, ces paroles s'appliquaient parfaitement à Esther, et combien elles sont vraies pour les intercesseurs que nous sommes aujourd'hui. Dans Saint Luc, chapitre 2, verset 37, on trouve le témoignage de Anne, cette femme hors du commun, âgée de 84 ans, ce qui est l'équivalent maintenant de mon âge. Malheureusement, elle ne s'écartait jamais du temple, rendant un culte à Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Bien que j'ai le même âge qu'elle avait, je dois vous avouer que j'en fais pas autant. Et je dirais, en ajoutant, malheureusement. Je le reconnais. Cependant, de tous les personnages du Nouveau Testament, c'est bel et bien saint Paul qui est l'un des plus grands intercesseurs, hormis, évidemment, de Jésus-Christ lui-même. Dans presque chaque épître, il mentionne avec quelle constance il intercède pour les saints. Exemple, Éphésiens, chapitre 1, versets 16 et 17, ainsi que 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 28. Oui, Jésus-Christ, c'est l'intercesseur absolu. Comme c'est exaltant de réaliser que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre grand prêtre, intercède en notre faveur jour et nuit, selon Isaïe 53, 12, selon Romains chapitre 8, verset 34 et Hébreux 7, verset 25. Il a intercédé pour l'apôtre Pierre, et ceci afin que sa foi ne défaille pas. Saint Luc 22, verset 31 et 32. Il a intercédé pour nous sur la croix. Saint Luc, verset 23, verset 34. Il a intercédé pour que le Paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous soit envoyé sur nous, selon Saint Jean 14, verset 16. En fait, il est toujours vivant pour solliciter en notre faveur, est-il dit dans Hébreux 7, verset 25, et Saint Jean, chapitre 17, verset 9 à 10. Oui, chers amis, comment prier quand nous ignorons comment le faire? Et dans certaines situations, oui, nous ne savons pas toujours comment prier. Alors, il est possible d'avoir de l'aide pour certains d'entre nous. Demandez à Dieu de nous montrer comment prier. Il indiquera la façon exacte dont nous devons intercéder pour cette situation particulière. Et demandons à l'Esprit Saint d'intercéder au travers de nous, afin de nous donner le poids nécessaire aux paroles que nous devons dire. Romains 8, versets 26 et 27. Il est même possible de gémir, oui, de solliciter ou de supplier en esprit à propos d'une certaine situation. Et nous pouvons prier avec l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. On peut donc intercéder en langue lorsque l'on ne sait pas du tout comment intercéder avec notre pensée. Et notre pensée demeurera stérile en ce moment-là, mais c'est sans importance aucune, parce que Dieu sait ce que nous prions, et c'est cela qui compte. Dieu a dit, « Je cherchais, cherchais. » Oui, il a cherché. « J'ai cherché parmi eux un homme qui construisit un mur et qui se tienne sur la brèche devant moi, en faveur du pays. Et ceci pour m'empêcher de le détruire, le pays. Mais je n'en ai pas trouvé. » Ézéchiel 22, verset 30. C'est un peu la même chose que dans l'histoire de Jonas et dans l'histoire de Sodome et Gomorre. Chers amis, je voudrais simplement vous dire que là où vous êtes, vous pouvez maintenant vous mettre à genoux ou assis ou couché sur votre lit, c'est égal. Et avec quelques mots tout simples, priez. Priez simplement. Apprenez cela. Et avec des mots tout simples, vos mots à vous. Il n'y a pas besoin de rechercher des mots scientifiques, théologiques, compliqués. Car Dieu n'est pas compliqué, heureusement pour nous. Alors, priez là où vous êtes, simplement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est mon désir de tout mon cœur. À bientôt à nouveau. Au revoir, mes très très chers amis.